France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Quand le harcèlement tue, une directrice d'école du Cantal s'est donné la mort. Hier, elle était la cible de menaces et d'injures homophobes. Explication à suivre. L'acteur Gérard Depardieu sera jugé pour viol. La comédienne Charlotte Arnoux, qui l'accuse, obtient gain de cause. À suivre encore Marine Le Pen, qui pousse pour la dissolution. Elle était reçue ce matin par François Bayrou. L'été 2025, le troisième plus chaud depuis 1900. Et puis le drame du séisme afghan. Bonjour Frédéric Seyss.
Bonjour Jérôme.
Plus de 1400 morts dans une région comme coupée du monde.
Dans l'est du pays, zone rurale et très montagneuse, largement inaccessible aux secours. Les ONG s'attendent à ce que le bilan s'alourdisse fortement.
A tout de suite pour vos précisions. Nous prendrons le train également pour une expo sur les wagons-bars, une halte dans les vignes d'Alsace pour le loto du patrimoine, et puis nous irons dans une commune de l'Aisne où le maire prend un arrêté anti-fast-food.
On va avoir à notre gauche un tacos, on aura après un kebab, on va retrouver après encore un kebab.
Reportage dans une vingtaine de minutes. À partir de 13h30, c'est l'un des procès qui va marquer la rentrée, celui de Cédric Jubilard, accusé d'avoir tué sa femme Delphine. Nous en parlons avec la journaliste Valentine Arama. Elle publie Delphine Jubilard, une disparition. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France. On s'assoit 5 minutes sur un banc avec Cyril Petit qui nous parle des bancs de l'amitié pour lutter contre l'isolement. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. L'autrice féministe Victoire Toyon demande Fréhel à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Un village sans prétention, la mauvaise réputation, on connaît la chanson de Brassens, elle se termine mal, dans la vraie vie aussi. Nous sommes à Moussages, département du Cantal, 250 habitants. Il se trouve que la directrice de l'école est mariée avec une autre femme. Et depuis près de 2 ans, elle est la cible d'injures homophobes, des tags sur les murs de la commune. Après avoir déposé plusieurs plaintes et alerté sa hiérarchie, bonjour Faustine Calmel.
Bonjour.
Hier, jour de rentrée, elle s'est donné la mort.
Son corps retrouvé par les gendarmes au pied de la falaise d'où elle a sauté. Caroline Grandjean, 42 ans, directrice et seule enseignante dans cette école à classe unique où elle n'avait pas remis les pieds depuis plus d'un an. Arrêtée après avoir découvert dans son établissement tag et courrier homophobe, Florence Comte du syndicat des directrices et directeurs d'école était en contact avec elle ces derniers mois.
Une insulte homophobe écrite sur les murs de l'école, puis une autre qui assimilait son orientation sexuelle à des actes de pédophilie et ensuite des menaces de mort. Et c'est vrai que Madame Grandjean a porté plainte plusieurs fois et ce corbeau, malgré ses plaintes et malgré des surveillances, n'a jamais été retrouvé.
Caroline Grandjean s'est enfoncée, blessée, détruite par ce harcèlement. Elle avait déjà tenté de mettre fin à ses jours cette année jusqu'à y parvenir, donc hier.
Et les syndicats déplorent aujourd'hui un manque de soutien de l'éducation nationale.
Car selon eux, c'est un changement de poste qui avait été proposé à Caroline Grandjean et elle le refusait, demandant elle plus d'accompagnement et d'engagement de ses supérieurs, Florence Comte.
Cette date de rentrée scolaire, pour nous, a été choisie symboliquement par Madame Grandjean et c'est vrai qu'on est dans une détresse de déplorer ce pas de vague qui arrive trop souvent dans l'éducation nationale et cette éducation nationale qui gère parfois, souvent, mal les ressources humaines.
Le ministère de l'Éducation nationale qui se déclare ce matin profondément touché par ce décès tragique, une cellule d'écoute a été activée. Le rectorat va conduire des investigations. Les syndicats réclament toujours une enquête administrative.
Précision signée Faustine Calmel. Le parquet de Pau lui annonce ce matin qu'il enquête sur l'établissement catholique Saint-Joseph de Naï. C'est tout près de Bétarame. Enquête pour violences aggravées. Les faits remontent aux années 70. Au moins 4 plaintes ont été déposées par d'anciens élèves. L'acteur Gérard Depardieu sera donc à nouveau jugé dans les prochains mois. Mais cette fois, pour viol et agression sexuelle. Ce sera devant la cour criminelle de Paris. À l'origine de la plainte, la comédienne Charlotte Arnoux, âgée d'une vingtaine d'années au moment des faits, c'était en 2018. Bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
Des faits que l'acteur a toujours contestés.
Et Charlotte Arnoux a été la première à réagir sur Instagram. Je crois que j'ai du mal à réaliser tant c'est énorme. Je suis soulagée, écrit-elle. Gérard Depardieu sera jugé pour des viols commis en août 2018 sur la jeune comédienne venue lui demander des conseils. Au cœur de l'enquête, il y a notamment des extraits de la vidéo surveillance surveillance saisie dans l'hôtel particulier de l'acteur, avec deux lectures opposées. La défense affirme qu'on y voit Charlotte Arnoux embrasser Gérard Depardieu et monter dans sa chambre sans contrainte. De sources proches du dossier, le juge d'instruction a lui retenu la contrainte morale et l'état de sidération de la plaignante. Charlotte Arnoux attend ce procès depuis 7 ans. À l'époque, elle s'était confiée à son entourage. Elle avait porté plainte quelques jours plus tard. Une plainte d'abord classée sans suite. La jeune femme avait ensuite demandé la désignation d'un juge d'instruction. Et ce sera un deuxième procès pour Gérard Depardieu, qui a été condamné en mai à 18 mois de prison avec sursis pour des agressions sexuelles commises sur deux femmes lors du tournage des Volets Verts en 2021. Il a fait appel.
Sarah Guibaudeau, près de Lyon, dans la commune de Caluire et Cuire. C'est l'incompréhension après la mort de Shems, un jeune de 16 ans, poignardé à mort dimanche soir par un autre garçon âgé de seulement 13 ans depuis le meurtrier présumé a été interpellé, placé en garde à vue. Mathilde Imberti s'est rendue sur place ce matin, quartier de Montessuie.
La photo de la victime a été affichée quelques heures hier sur les lieux du drame. En bas d'une barre d'immeubles, des logements sociaux où le jeune homme, 16 ans, n'habitait pas. Il s'y trouve dimanche soir vers 22h30 avec deux amis dont l'un réside ici. Un quatrième adolescent arrive, il est armé d'un couteau. Un coup au thorax s'avérera mortel. À plus de 24 heures des faits, les habitants de l'immeuble disent leur sidération et leur tristesse. Le quartier est calme, une telle violence du jamais vu ici.
Mais hier matin, j'apprends qu'il y a un petit, il s'est fait planter, il est décédé à l'hôpital. Et c'est plus tard, après, dans la journée, j'apprends que c'est encore un plus petit que 13 piges qui a commis les faits. C'est pas un règlement de compte, c'est pas une histoire de territoire, c'est surtout ça l'incompréhension.
Le fait qu'il soit hyper jeune et puis qu'il se mette des coups de couteau comme si c'était des légionnaires de 40 ans qui se croisaient sur le front, quoi. Ça n'a pas lieu d'être. Que ce soit dans notre ville ou ailleurs, c'est une violence sans nom.
Pas de deal de drogue en cause, confirme la municipalité. C'est une affaire de raquette de téléphone nouée dans un bus, indifférent à régler. La victime et sa famille, sans histoire. Lui entrait au lycée, filière bac pro de plomberie. Le meurtrier présumé faisait partie de l'Académie, le centre de formation de l'Olympique Lyonnais, futur footballeur. 13 ans, il a été placé en garde à vue hier pour homicide volontaire.
Mathilde Imberti à Lyon pour Inter. Et voilà qui rappelle ce qui s'est passé en avril dernier, cette fois dans un lycée de Nantes. Une ado de 15 ans, Lorraine, tuée à coups de couteau par un autre élève. Le meurtrier présumé a depuis été hospitalisé en psychiatrie sans qu'aucune explication ne puisse, à ce stade, être apportée à son geste. Et bien ce matin, sur Inter, les parents de Lorraine ont pris la parole pour la première fois. Ils veulent alerter sur la santé mentale des jeunes. Ils ont décidé de monter une association.
On a de la colère, bien sûr. C'est un immense gâchis. Notre fille méritait de vivre une vie plus longue. Et du coup, cette énergie de la colère, on va l'utiliser pour autre chose. Sinon, en effet, on flanchera.
Parmi les initiatives que vous avez prises, il y a cette course que vous avez organisée pour votre fille, pour Lorraine, et cette cagnotte. Il y a aujourd'hui plus de 80 000 euros qui ont été réunis, rassemblés.
Ce qui est formidable, c'est que c'est les jeunes qui sont à l'initiative de cette course, qui ont proposé ça pour finir l'année en beauté. Et ça prouve qu'on peut faire confiance aux jeunes pour créer de belles choses.
En fait, lors de cette course solidaire, on s'est rendu compte que, et de un, ça leur faisait du bien de pouvoir réagir, faire quelque chose physiquement, ensemble. Et ils ont pu aussi rencontrer des associations qui travaillent justement pour la prévention de la santé mentale. Ça a fait du bien à tout le monde, ça nous a fait du bien à nous aussi. Et en plus de ça, ça a ramené du financement pour que d'autres projets puissent être aidés par la suite.
Les parents de Lorraine, au micro de Benjamin Duhamel.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
Et pendant ce temps, la courbe continue de grimper. Je parle de celle des taux de la dette française, ce qu'il nous coûte d'emprunter sur les marchés. Ce taux a dépassé ce matin les 4,5% pour la première fois depuis 14 ans. Et tout cela alors que le Premier ministre tente de convaincre les oppositions de ne pas le renverser lundi prochain. Et on va y venir dans un instant. D'abord, expliquons cette hausse avec vous, Claire Chaudière. Bonjour Claire.
Bonjour à tous.
Le déclencheur, c'est bien la décision de François Bayrou de solliciter la confiance.
Oui, c'est bien l'instabilité politique qui se profile à nouveau et à travers elle l'incertitude budgétaire qui provoque de nouvelles petites secousses sur les marchés financiers. Les investisseurs, nos financeurs, ont augmenté ces derniers jours la prime de risque qu'ils attribuent à la dette de la France à long terme, la dette à 30 ans, dont le taux d'intérêt était déjà élevé. Résultat, il atteint ce niveau de 4,5% qu'on n'avait pas connu depuis la crise de la dette souveraine de 2011. Christopher Dembick est conseiller en stratégie chez Pictet Asset Management.
finalement, le marché anticipe déjà le résultat du vote du 8 septembre. La France doit, comme les autres pays européens, diminuer son déficit et sa dette publique. Elle tarde à le faire. Si elle ne le fait pas, à certains stades, elle va continuer d'emprunter à des taux beaucoup trop élevés.
Aucune raison de dramatiser pour autant, poursuit cet économiste. Un effet Liz Truss de panique totale des marchés financiers n'est pas à l'ordre du jour, dit-il, mais il faut s'attendre à ce que le remboursement des intérêts de la dette devienne bientôt le premier poste budgétaire en France. Et puis autre enjeu, cette hausse va avoir des conséquences sur les taux d'intérêt auxquels les entreprises et les ménages empruntent. On parle là des crédits immobiliers par exemple. Notre système bancaire fait courroie de transmission. Il faut donc s'attendre à court-moyen terme à voir, dit-il, les taux d'emprunt pour tout un chacun repartir légèrement à la hausse.
Merci Claire Chaudière. Le cours de l'or, lui, a atteint ce matin un sommet historique au-delà de 3 500 $ l'once. Mais c'est là un mouvement mondial lié aux guerres et aux droits de douane. Voilà donc le contexte dans lequel le Premier ministre recevait ce matin dans son bureau de Matignon les leaders du Rassemblement National, Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui s'y verraient bien à la place de François Bayrou dans quelques mois. Bonjour Lise Rosveil.
Bonjour.
Vous êtes sur place pour le Rassemblement National. Hors de question d'épargner François Bayrou. Le parti veut la dissolution et de nouvelles élections.
Jordan Bardella s'y attendait, ce rendez-vous, sauf peut-être pour admirer les moulures et se rêver assis derrière le bureau, n'a servi à rien.
Le miracle n'a pas eu lieu et évidemment que cet entretien ne fera pas changer le Rassemblement National d'avis.
L'entrevue a duré une heure, mais il n'y a pas eu de négociation. À peine ont-ils évoqué l'immigration et la contribution de la France à l'Union européenne. Le temps, de toute façon, n'est plus à la discussion, martèle Marine Le Pen, qui pousse encore pour de nouvelles élections le plus vite possible.
Nous nous appelons, Jordan et moi-même, à une dissolution ultra rapide. Parce que la réalité, c'est qu'il faut que la nouvelle majorité issue de ces nouvelles élections puisse construire un budget pour que notre pays ait un budget.
Plus tôt on retournera aux urnes, plus tôt la France aura un budget.
Et si Emmanuel Macron n'écoutait pas leurs appels répétés à la dissolution en nommant un nouveau Premier ministre du socle commun, Marine Le Pen le menace déjà de censure.
Le seul moyen pour un Premier ministre de pouvoir avoir une durée de vie un peu plus longue serait de rompre avec le macronisme. Que ces ministres soient de droite, de gauche, du centre, nous constatons qu'aucun des premiers ministres n'a eu le courage de rompre avec le macronisme.
Mettre la pression pour obtenir de nouvelles élections, c'est la stratégie du RN. Plus le temps passe, plus la dissolution sera inéluctable, sourit un stratège du parti.
Liz Rosveil avec les moyens techniques de Michael Simon. Autre personnalité politique reçue ce matin, le leader de gauche Raphaël Glucksmann, qui a demandé à François Bayrou de revenir sur le vote de lundi prochain. Les Républicains, eux, peinent à se mettre d'accord, même si leur président Bruno Retailleau les somme de voter la confiance. Le ministre de l'Intérieur qui veut rester à son poste, par exemple, pour porter un texte sur les polices municipales. Il veut leur donner davantage de prérogatives proches de celles qui sont celles aujourd'hui de la police nationale. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Déplacement du ministre à Sartrouville ce matin que vous avez suivi et qui n'est pas innocent à quelques mois des élections municipales.
Le texte projet de loi est prêt. Il doit être visé par le Conseil d'État le 17 septembre prochain, puis Conseil des ministres espéré fin septembre. Tout cela évidemment si l'on fait abstraction de ce qui va se passer en début de semaine prochaine. Mais quoi qu'il se passe, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau espère que ce texte qui réforme effectivement en profondeur les prérogatives des polices municipales sera adopté avant les élections municipales.
Les gouvernements peuvent passer, malheureusement, la délinquance, les problèmes, eux, restent et il faut les traiter. Et on ne pourra les traiter correctement que si on donne des nouveaux pouvoirs aux polices municipales.
Concrètement, dans ce projet, les maires et leurs policiers municipaux pourront, s'ils le souhaitent, infliger des amendes forfaitaires délictuelles pour consommation de produits stupéfiants. Ils pourront utiliser des drones quand leurs caméras seront détruites près des points de deal. Ils pourront avoir accès aux halls d'immeubles, accès aux fichiers d'assurance auto ou de roues, sans avoir besoin d'appeler les policiers nationaux. Les délégués syndicaux présents ce matin à Sartrouville n'ont rien trouvé à redire, en tout cas sur ce point-là. Des délégués UNSA, FO ou encore à qui préviennent déjà que ces mesures ambitieuses ne seront appliquées sur le terrain que s'il y a un volet social conséquent sur la prise en compte d'une bonne partie de leurs revenus dans le calcul de leur retraite et qu'il faudra bien obliger les maires, par la loi, à cotiser bien plus qu'aujourd'hui.
Merci Emmanuel Leclerc. Un mort la nuit dernière à Carpentras, dans le Vaucluse, dans un choc entre deux voitures dont l'une circulait à contresens. Son conducteur venait de refuser de se soumettre à un contrôle de police. Il a ensuite heurté un autre véhicule dont l'un des occupants est décédé. Vous nous parliez, Emmanuel, à l'instant de Bruno Retailleau. Il dit vouloir faire de l'organisation de Rêve Party un délit à l'avenir, avec risque de prison et non plus une contravention. Tout cela alors que la Rêve Party interdite de Fonjoncousse dans l'Aude est en cours de démontage. La musique a été coupée, mais environ 900 personnes sont toujours sur le site ce matin, selon la préfecture de l'Aude. Hier, il y a eu des affrontements avec des agriculteurs et des villageois excédés, puisque cette fête s'est déroulée au cœur même des Corbières, ravagées par un incendie. Ce qui nous amène au bilan climatique de l'été 2025. Il a été communiqué ce matin, était marqué par deux canicules et par 33 hectares brûlés, 33 000 hectares brûlés. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Le troisième été le plus chaud depuis le début des relevés en 1900.
Oui, plus de 42 degrés enregistrés à Angoulême et à Bergerac le 11 août. On a frôlé les 42 degrés, souvenez-vous, aussi à Bordeaux. Les pics à plus de 40 degrés étaient très rares il y a quelques décennies. Ce n'est plus le cas, explique Virginie Schwartz, directrice générale de Météo France.
On a 80% du territoire de la métropole qui a été concerné pendant l'été par des températures de plus de 35 degrés, parfois pendant des longues périodes. Là, 20% du territoire a été concerné par des températures de plus de 40 degrés. Et ça a été le cas ces dernières années, donc ça devient maintenant une occurrence annuelle.
Le thermomètre monte, mais notre préoccupation baisse, s'alarme la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, appelle à un sursaut. Elle dénonce aussi les climato-sceptiques qui remettent en cause les données scientifiques.
La parole scientifique est menacée de mort car elle fait peur. Et cette tendance se trouve malheureusement légitimée par ce que nous voyons outre-Atlantique. C'est ce que j'appelle la trumpisation des esprits. Les vrais éco-terroristes sont, selon moi, ceux qui terrorisent les scientifiques et les météorologues. Nous ne devons rien laisser passer.
Et l'été 2025 est un avant-goût édulcoré du futur, dit la ministre. Il pourrait y avoir 10 fois plus de jours de forte chaleur d'ici la fin du siècle.
Sandy Dauphin en direct du ministère de la Transition écologique avec Julien Girard. Hier, ce sont les orages qui avaient entraîné le report de la rentrée dans les départements du Var et des Bouches-du-Rhône. Tout est rentré dans l'ordre ce matin. Les 700 000 élèves ont pu retrouver leur classe. C'est un pays d'accès très difficile en raison de sa géographie. Et le retour des talibans au pouvoir il y a 4 ans n'a rien arrangé. L'Afghanistan, l'est du pays, touché par un séisme dans la nuit de dimanche à lundi, avec 5 répliques. La région de Jalalabad, pas très loin du Pakistan. Et ce dernier bilan communiqué ce matin, plus de 1400 morts, plus de 3000 blessés. Frédéric Seyss, rédaction internationale de Radio France, vous êtes avec nous. Frédéric, est-ce qu'on a des images, est-ce qu'on a des témoignages pour savoir ce qui se passe?
Alors des villages entiers rasés dans cette province très rurale, très montagneuse de Kounar, des maisons en torchis et en bois réduites à l'état de décombre. Nous avons pu joindre ce matin le chef de mission en Afghanistan de l'ONG La Chaîne de l'Espoir. Anthony Dutemple raconte les difficultés des secours. Une seule route permet d'évacuer les blessés vers l'hôpital de la province.
Cette route principale reste accessible, mais c'est la seule route praticable. Et ensuite, toutes les petites routes qui justement montent dans les hauteurs sont en fait complètement affaissées, détruites. On parle là parfois de 3 heures de marche à partir des points d'obstruction jusqu'à certains villages. Donc tout reste inaccessible et voire dangereux.
La mission des secours rendue encore plus difficile par les fortes pluies et l'absence de réseau téléphonique. Cette province de Kounar compte 500 000 habitants, dont des milliers de migrants précaires qui ont été renvoyés ces derniers mois par le Pakistan voisin. Selon le coordinateur humanitaire de l'ONU pour l'Afghanistan, le bilan du séisme devrait encore s'alourdir fortement.
C'est arrivé en pleine nuit, quand les gens dormaient, donc c'est sûr, le bilan va forcément augmenter. Au final, on estime que plusieurs centaines de milliers de personnes pourraient avoir été affectées par le tremblement de terre.
Et le gouvernement des talibans appelle à l'aide internationale. La Chine, le Pakistan, l'Iran, les Émirats ont déjà répondu. Ils envoient des équipes de secours. Les pays occidentaux, eux, s'en tiennent à la promesse de dons aux ONG. L'Union européenne annonce l'envoi de 130 tonnes d'aide humanitaire.
Frédéric Seyss pour ces informations. Au Soudan, des pluies torrentielles ces derniers jours sur les montagnes du Darfour ont provoqué un glissement de terrain massif. Un village a été emporté. Un groupe armé qui contrôle la région parle de plus d'1 millier de mort, le Darfour, déjà en proie à une grave crise humanitaire. L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro est-il à l'origine de la tentative de coup d'État en 2022 pour se maintenir au pouvoir après sa défaite dans les urnes face au président actuel Lula? Le procès de l'ex-dirigeant d'extrême droite entre dans sa phase finale. Au Brésil, il risque plus de 40 ans de prison, décision dans 10 jours. Et d'ici là, les audiences vont être très suivies à Washington, puisque le président américain Donald Trump a pris fait et cause pour Bolsonaro et il fait tout, Jean-Mathieu Albertini, pour influencer ce jugement.
Eduardo, l'un des fils de Bolsonaro, s'est exilé aux États-Unis pour alerter l'administration trumpiste de la supposée persécution politique contre son père et sa mission a réussi au-delà de ses espérances.
Le Brésil réprime de la même façon que Daniel Ortega au Nicaragua et vous croyez que Trump ne devrait pas réagir en prenant des sanctions contre les personnes qui font cela? Et s'il ne fait pas ça, le virus autoritaire brésilien va s'étendre jusqu'au territoire américain.
En prenant prétexte de ce procès, Donald Trump a eu la main lourde avec des tarifs douaniers de 50% sur certains produits et des sanctions contre deux juges. Une situation alarmante pour le professeur de relations internationales Mauricio Santoro.
Les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial du Brésil juste après la Chine. Les effets de ces tarifs douaniers sont énormes. C'est le pire moment entre nos deux pays en 200 ans de relations bilatérales et cela va probablement empirer si Jair Bolsonaro est condamné.
Les affinités idéologiques entre les deux hommes n'expliquent pas tout. Trump en profite pour faire pression contre les velléités du Brésil de légiférer sur les entreprises technologiques américaines. Reste qu'en agissant ainsi, il pousse davantage le pays dans les bras de la Chine.
Jean-Mathieu Albertini à Rio pour Inter. Un train dans Pékin ce matin. Un train que l'on surnomme la forteresse ambulante. À son bord, le chef d'État de Corée du Nord, le dictateur Kim Jong-un, qui ne voyage jamais en avion. C'est seulement la 9e fois depuis 2011 qu'il sort de son pays et il va participer demain en Chine aux côtés de Xi Jinping, le président chinois, et du président russe Vladimir Poutine à un défilé militaire dans la capitale chinoise. En Ukraine, après l'assassinat samedi de l'ancien président du Parlement en pleine rue, Andrei Paroubi, par un homme déguisé en livreur. L'homme qui a été arrêté est passé aux aveux il y a quelques heures. Il reconnaît le meurtre, mais il nie tout lien avec la Russie. Cet homme invoque une vengeance personnelle après la mort de son fils sur le front. C'est un changement qui n'a pu vous échapper dans nos villes ces dernières années. La multiplication des fast-foods, on en comptait 13 000 en France en l'an 2000, 52 000 l'an dernier. Alors certaines communes trouvent que l'on frôle l'écœurement. Ainsi, à Fère-en-Tardenois, dans le département de l'Aisne, le maire vient de prendre un arrêté pour interdire l'installation de nouveaux tacos, snack pizza ou encore kebab. Mathieu Bonnour s'est rendu à Fère-en-Tardenois.
Dans le bourg, il y a la rue des Marchands, avec l'embarras du choix pour manger.
On va avoir à notre gauche un tacos, on aura après un kebab, on va retrouver après encore un kebab.
Jean-Paul Roseleux, maire de la commune, y voit un problème économique. La demande ne suit pas toutes ces installations.
Les gens qui tiennent ce genre d'établissement, comme monsieur par exemple, ne vont pas pouvoir continuer à exploiter leur établissement.
Devant le plus ancien de ces fast-foods, Mohamed prend son café au soleil. C'est le gérant des lieux.
Il y en a 4, 5, il y en a beaucoup trop.
Avec seulement 10 clients ce midi, il a le temps de nous répondre. Il s'est même récemment séparé de son seul salarié. Le chiffre d'affaires baisse un peu plus tous les mois.
Je prends sur moi, je me serre la ceinture, je le vis très mal. Je me demande si je vais continuer, arrêter.
Le seul en terrasse, c'est Christophe, avec son plateau bien rempli.
C'est un beau tacos.
Lui aussi, il trouve qu'il y a trop de snacks ici.
Quand on en ouvre un 3 dans le même village, dans la même rue, face à face presque, ça peut pas marcher.
Dans son bureau, le maire sort fièrement l'arrêté municipal. Il parle d'enjeux de santé publique.
Là, on va avoir une réputation. Fère-en-Tardenois, capitale de la malbouffe, on n'en peut plus.
Le maire attend maintenant un retour de la préfecture pour savoir si oui ou non, il a le droit d'interdire l'installation de nouveaux snacks dans sa commune.
Restons à table avec cette exposition qui s'intéresse aux trains et à ce qu'on y mange. L'histoire des wagons-bars des trains de la SNCF. Ça se passe au Ground Control, c'est une friche ferroviaire dans le 12e arrondissement de Paris où vous vous êtes rendu. Bonjour Julien Baldacchino.
Bonjour.
Vous avez visité cette expo qui retrace en fait l'histoire de la restauration à bord des trains.
Oui, elle s'appelle Food Express et elle présente une série de photos grand format qui nous font découvrir ou redécouvrir à quel point l'allure et le menu de ces wagons a évolué depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus plus les trains vont vite, moins le public prend le temps de faire un vrai repas. À partir des années 70, il n'y a plus de cuisine à bord. Le repas à table se transforme en snack rapide et son imagerie évolue aussi. Arthur Metlal est historien et commissaire de l'exposition.
Dans les années 50-60, on a encore des personnes à bord, mais on se rend compte que les personnes évoluent. On va mettre des personnes plus jeunes ensuite pour le bar corail. Et puis, en fait, dans les années 80-90, on arrive sur de la photographie uniquement alimentaire et marketing qui va promouvoir les plats. On a une nouvelle esthétique. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant à observer.
Ces plats, ils sont pour certains intemporels, comme le croque-monsieur, qui n'a presque pas changé de recette ni d'allure depuis son introduction au milieu des années 70. D'autres ont pris un petit coup de vieux, mais il y a tout de même une sorte de cycle avec des tendances qui reviennent jusqu'à aujourd'hui.
Les nouvelles manières de se restaurer à bord du TGV dans les années qui arrivent, en fait, sont complètement inspirées d'une innovation qui s'appelle le Grill Express dans les années 70, qui consiste en gros à avoir un libre service dans la voiture restaurant. Et donc on voit bien que, oui, l'innovation, elle est perpétuelle, mais elle se nourrit aussi de sa propre histoire.
Tout comme le petit frère de la voiture bar, le chariot ambulant introduit dans les années 60, bijou de technologie à l'époque et qui devrait bientôt revenir dans les trains Ouigo.
Julien Baldacchino pour cette exposition. Ils sont 102, ce sont les sites retenus cette année pour bénéficier du loto du patrimoine. Ils ont été dévoilés hier soir. Alors, impossible évidemment de les évoquer tous, nous en avons choisi un. On va prendre un peu de hauteur. Le pavillon des vignes se trouve à Chervillers dans le Bas-Rhin. Reportage Antoine Balandra.
La vue est imprenable sur la plaine d'Alsace. Sur la colline, le donjon du château de Lortembourg domine des pentes recouvertes de vignes.
Quand vous avez des journées de prédilection avec une superbe météo, ben vous verrez les Alpes bernoises suisses. Et à gauche, vous verrez jusqu'à la flèche de la cathédrale de Strasbourg.
Au milieu de ce décor de carte postale se dresse le pavillon des vignes, un petit bâtiment cubique du 19e siècle, fait de granit et de grès rose. Il avait une utilité bien précise, explique Olivier Solaire, le maire de Chervillers.
Alors, comme vous le voyez, on est en plein vignoble et cette bâtisse avait été construite dans les années 1850 par un ancien maire de Célestat pour aller y stocker finalement son matériel pour exploiter son vignoble juste à côté.
Pour l'instant, le bâtiment est en piteux état, très abîmé par un incendie il y a 30 ans, alors l'arrivée du loto du patrimoine est presque un miracle.
Je peux vous dire que des nouvelles comme ça, dans un mandat, on n'en a qu'une.
Désormais, l'idée pour la capitale barinoise du Riesling, c'est de transformer ce petit pavillon en vitrine du savoir-faire viticole.
Notre idée, c'est de réhabiliter ce bâtiment en le mettant à disposition du syndicat viticole local pour permettre à chaque viticulteur, à tour de rôle, d'exploiter ce bâtiment et de faire découvrir ses crus aux visiteurs.
Et pour y arriver, en plus du loto de Stéphane Bern, la Fondation du patrimoine a lancé une cagnotte qui a déjà récolté plus de 50 000 euros.
Ici Alsace, et puis c'était l'un des chiffres les plus attendus de la rentrée télé. Le premier JT sur France 2 de Léa Salamé a été regardé hier soir par 4 millions de téléspectateurs en moyenne, c'est-à-dire à peu près autant que le premier d'Anne-Sophie Lapix lors de la dernière saison. Un écart d'1,5 million de téléspectateurs hier soir entre les JT de France 2 et de TF1.